Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guerre des Gamers. Aujourd'hui, je vous annonce encore une émission riche en débats et en engueulades, mais bien sûr toujours exempte de mauvaise foi, sauf pour Jalma, notre star de la Guerre des Gamers. Comment tu vas aujourd'hui?
Bah écoute, ça va mal. Depuis le dernier podcast, j'ai passé une très mauvaise semaine. Je ne me remets pas du point de compassion que tu as donné à French dans le dernier débat sur les médias. Et du coup, j'ai été obligé de m'extrader dans l'ouest pour aller chercher le soleil. Donc effectivement, là, je viens de faire 8 heures de route parce que j'avais besoin de soleil pour me remonter le moral. J'en suis en dépression, là.
Mais écoute, t'as plus qu'à tout donner dans celui-ci pour obtenir ce nouveau point. French, comment tu vas aujourd'hui?
Il est si fragile, notre Jalma.
Oui.
Eh bien, ça va super, salut à tous. Ça va super parce que, comme beaucoup d'entre vous, je suis un petit peu occupé sur Final Fantasy VII Rebirth ces temps-ci et c'est plutôt très très bon.
Moi, je suis sur Brothers, j'ai hâte qu'on en parle parce que pour le moment, je suis plutôt mitigée. Donc, à voir par la suite. En attendant, on débute ce podcast avec les dernières actus dans le Tu cliques ou pas. Vous avez l'habitude d'une rubrique où chaque chroniqueur donnera son avis sur les sujets ayant fait l'actualité dernièrement. Puis, place au débat de la semaine dans la plaidoirie du geek. Nos chroniqueurs argumenteront autour d'un sujet qui va encore mettre les nerfs de chacun à l'épreuve. La thématique du jour sera « Un jeu a-t-il besoin d'être nécessairement long ou bien dense hein, pour être bon ?» Enfin, nos chroniqueurs découvriront le coffre maudit de la semaine que je leur ai concocté. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous le savez très bien. C'est la surprise de fin de podcast. Allez, on passe tout de suite au Tu cliques ou pas.
Tu cliques ou pas.
Alors, le Tu cliques ou pas, hein, comme d'habitude, on traite l'actu de manière express. Tu cliques, t'argumentes, tu cliques pas, on zappe. Le 10 mars dernier, Nintendo a annoncé une suite au film Super Mario Bros. Le deuxième film a déjà une date prévue puisque ce dernier sortira le 3 avril 2026 aux États-Unis. Jalma, je vais commencer par toi. Hein. Je sais que tu avais beaucoup aimé ce premier film, je suppose que tu cliques sur cette news.
Mais moi, je clique 100 fois. Enfin, alors déjà, rectificatif, il y a une personne sur Twitter qui nous suit qui nous a précisé que ce n'était pas une suite directe. Enfin, ce n'est pas une suite qui a été annoncée. Donc, ça va être autour de l'univers de Super Mario, mais ça peut très bien être sur un autre personnage. Donc, déjà, on va repréciser et on va faire confiance à notre followers parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos sur le film à part la date. Mais moi, je suis hype de ouf. Le Super Mario au cinéma était juste incroyable. Moi, ça a ranimé mon cœur d'enfant. Ça a ranimé ce que j'ai aimé de Super Mario. En plus, ce qui est très bien, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à la série Star Wars que vous avez sur Disney+. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liens avec les jeux vidéo, mais de manière toujours très subtile, en fait. Et ça, c'est très appréciable. Et je ne comprends pas ceux qui n'ont pas aimé ce film, qui d'ailleurs fait partie des meilleures animations de tous les temps en termes de chiffres et d'audience. Hein. Je préfère vous le dire.
C'est vrai, c'est vrai. Je te rejoins, moi je sais pas trop si je clique parce que j'avais pas trop accroché au premier film, mais je suis très contente parce que c'est quelque chose de familial, que tu peux aller voir avec tes parents,
avec tes enfants, avec tes cousins.
Voilà, en fait je trouve ça toujours bien moi de mettre en avant l'industrie du jeu vidéo, de la faire découvrir à des personnes qui ne le consomment pas, donc je suis contente, c'est une belle news, surtout qu'il y avait eu un bon succès, il avait eu des très bons retours, mais personnellement je pense pas que j'irai voir le 2, j'ai pas été conquise par le 1. Et toi, French, tu cliques ou pas?
Alors, moi, je suis trop vieux pour ces conneries, hein, on va se le dire. Voilà. Donc, non, je n'ai toujours pas vu le premier film.
Non, mais
film,
c'est quand même honteux de l'entendre dire ça, de « je suis trop vieux pour ces conneries », parce qu'en plus, pour une fois qu'on a une bonne adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, parce que je peux vous rappeler qu'on a eu notamment des films comme Assassin's Creed qui ont été un navet pas possible. On a eu Persia qui était très moyen. Moi, Uncharted, perso, je ne l'ai pas vu. Pour une fois qu'on peut se réjouir d'avoir un bon film d'animation, je comprends pas, French, que tu sois autant fermé d'esprit en ce moment. Et ça va de pire en pire. Il faut vraiment que tu ailles voir un médecin. On va te prescrire de la bonne humeur et de l'ouverture d'esprit. Ça te fera bien.
Écoute, il y en a aussi d'autres des bons films. Alors, comme il y en a très peu, on peut les citer. Il y a Silent Hill, le premier film Silent Hill qui est correct, qui est réalisé par Christophe Gans. Voilà, mais maintenant Mario, moi, excuse-moi, non, ça ne me parle pas parce que c'est quelque chose que j'ai envie de jouer manette en main. C'est pas un humour que j'ai envie de voir comme ça, passivement, pendant 1h20, comme ça, au cinéma ou bien devant mon écran.
En tout cas, on est tous enthousiastes pour toi, Jalma, ne t'inquiète pas. Sinon, pour rester dans les news Nintendo, hein, cette année, on a remarqué qu'ils ont décidé de proposer quand même pas mal de remasters et de remakes autour de leur grande licence. Ils ont annoncé Paper Mario le 23 mai prochain. On a Luigi Mansion qui débarquera le 27 juin. French, tu cliques?
Alors, cette fois-ci, Jalma va être content parce que cette fois-ci, je clique. Ça y est. Tu vois, comme quoi, j'ai rien contre Nintendo et Mario.
Non, mais je sais que toi, t'as rien contre Nintendo, à la différence de d'autres ici présents, et je ne donnerai pas de nom.
Alors oui, je clique. Je clique parce que pour plusieurs raisons. Alors, pas forcément pour Luigi's Mansion 2 que tu as cité, le remake HD qui va sortir donc au mois de juin, je crois. Pourquoi pas pour celui-là? Parce qu'en fait, ça, c'est un jeu vidéo qui... C'est un deuxième jeu qui va être réadapté pour la Switch. Mais beaucoup de monde considère que le troisième Luigi's Mansion est beaucoup, beaucoup mieux que le 2. Donc, bon, moi, c'est pas forcément un opus qui m'intéresse particulièrement.
Par contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, moi, j'ai bien entamé le 3, que je trouvais très surprenant, et j'avais pas eu l'occasion de faire le 2. Donc, je me dis, c'est peut-être aussi l'occasion de comparer et de voir l'évolution du jeu, pour le coup, tu vois. Mais c'est vrai que le 3, moi, j'invite vraiment à le faire, il est exceptionnel, et il est surprenant, en fait, dans le level design. Je le compare un peu à Super Mario Wonder, même si on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Mais Super Mario Wonder arrive à nous surprendre, en fait, de niveau en niveau. Et bien, Luigi's Mansion, à sa façon, arrive à nous surprendre d'étage à étage. Et c'est très intéressant de voir les surprises que proposent des chambres de la maison hantée. Je rappelle qu'il faut chasser des fantômes et tout. Et c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi.
Bah, tu vois, Luigi's Mansion 3, typiquement, j'aimerais peut-être bien le faire avec quelqu'un pour y jouer. Ça
et
pourrait
on peut
être
y jouer, on peut... Ah, je vois que tu fais un appel, toi, maintenant.
Ah oui, maintenant, je fais des appels, maintenant, oui.
Moi, ça peut vous surprendre. À la base, je voulais pas spécialement cliquer, mais au final, et vous en parlez, Luigi's Mansion, c'est une licence que j'ai jamais fait. Et je sais qu'il y a d'excellents retours dessus. Et du coup, je pourrais être curieuse, donc je vais cliquer parce que je pourrais être curieuse cette année de le faire. Pourquoi pas?
Est-ce que je peux faire une blague potache? Je me permets. Et puis en plus, comme on sait que tout ce que t'aimes bien passer à l'aspirateur, c'est l'occasion de te lancer là-dedans, quoi. Tu verras parce qu'il faut aspirer des fantômes, en fait. Voilà, fin de la blague potache.
Tu dis ça parce que c'est une nana ou...
C'est pour ça, blague potache, j'ai précisé. Maintenant, ne m'envoyez pas des
ouais,
oranges.
Ouais, voilà, ouais. Voilà.
Mais sinon, il y a aussi Paper Mario. Hein. On l'a cité également, le Paper Mario qui...
Ah, je l'attends de ouf.
Moi, j'attends aussi parce que pareil, j'ai pas eu l'occasion de jouer la version GameCube originelle à l'époque.
Ouais, ouais.
Et alors, à l'époque, c'était super original parce qu'on parle quand même d'un Mario qui utilise des personnages en 2D. Donc, c'est quelque chose d'assez sympathique au rendu visuel. Et ça mélange, en fait, jeu de rôle, typiquement action, combat au format jeu de rôle en tour par tour, avec des séquences de plateforme. À l'époque, c'était d'une originalité folle. Bon, aujourd'hui, en 2024, je suis un petit peu moins convaincu, mais c'est quand même un titre que j'ai super envie de découvrir sur Switch aujourd'hui.
Non, mais dont on peut parler, c'est quand même les graphismes, parce que finalement, ce qui est bien, c'est qu'avec des graphismes un peu en shell-shading, mais tu sais, ça fait très,
ouais.
Enfin, ça fait très papier hein, quand on regarde les graphismes. Mais en fait, ce genre de graphismes, ça n'a pas vieilli. Moi, je me souviens aussi, alors, ça va parler à certains, mais quand Okami en version HD était ressorti, c'était hyper intéressant parce que finalement, le shell-shading, ça ne vieillit pas et c'est très intéressant. Et moi, je trouve que rien que pour les graphismes, je le trouve très, très original. Et comme je n'avais pas la GameCube à l'époque, c'est pour ça que j'ai découvert perso Zelda Wind Waker bien plus tard. Bah c'est l'occasion, finalement, la Switch est très malin de proposer des jeux qu'on n'a pas eu l'occasion de faire à l'époque.
GameCube,
quoi.
C'était l'une des meilleures consoles. Tu l'as pas eu.
Et non, mais ça arrive, mais je me rattrape parce que je rattrape les grands titres. Et c'est comme pareil. Hein, regardez,
moi, je t'avoue que je l'ai encore et ça m'arrive des fois de la relancer avec les vieux James Bond, etc. Elle tourne encore super bien.
Tu vois
que
t'es fan de Nintendo.
Il y a des classiques.
Il y a les Star Wars Rogue Squadron aussi qui sont géniaux sur GameCube.
J'ai les vieux Harry Potter aussi dessus. J'ai les vieux Lord of the Rings. Excellent. La nostalgie.
Resident Evil 1 version GameCube, le remake, hein, qui est depuis
G4.
Ressorti sur toutes les machines, mais à l'origine c'était un remake sur GameCube qui
et
était
on extraordinaire.
On
croirait dans une maison de retraite avec des gens qui se rappellent leur souvenir d'enfance.
Oh, nostalgie,
c'est
horrible.
Tu te rappelles, Jalman, la grande époque du jeu vidéo.
Bon, en attendant, sujet numéro 3, Pendulo Studio, hein, qui annonce licencier 43% de ses effectifs, des problèmes liés à la production de Tintin Reporter. Cigar of the Pharaon et d'autres facteurs issus de la relation avec Microids ont conduit à ces licenciements. Jalma, tu cliques?
Je clique et j'en profite pour passer un gros coup de gueule.
Allez.
Non, mais on est quand même là, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on a tous vu une évolution dramatique du monde du jeu vidéo. On en a déjà parlé plusieurs fois en podcast. Finalement, maintenant, c'est les actionnaires qui décident de tout. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les actionnaires mettent des deadlines aux développeurs. Donc, les développeurs, et c'est typiquement ce qui s'est passé avec Tintin Reporter, le jeu n'était pas fini. Alors, je rappelle à peu près les problèmes qu'il y a eu, c'est qu'on avait quand même eu des bugs bloquants, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas aller au niveau suivant, par exemple. On a eu des pertes de sauvegarde à cause des bugs, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des parties qui se sont effacées, plus des bugs, on va dire, plus mineurs. Donc, forcément, ça s'est répandu sur la toile, le jeu ne s'est pas vendu. Donc, déjà... On oblige les développeurs à faire un travail de merde, parce que je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont compressés par les actionnaires. Et derrière, qu'est-ce qu'on leur dit? Ah bah votre jeu n'a pas marché, et en plus on vous licencie. Enfin, là, on est face à de la double peine. À un moment donné, il va falloir arrêter ces conneries, quoi, hein, sans
là,
déconner.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui qui vient justifier un peu les coupes budgétaires du studio. Et moi, je suis très triste parce que c'est un studio que j'adore beaucoup. J'étais une grande, grande fan des Runaways à l'époque, qui est un excellent point and click. Même Backside, j'avais beaucoup aimé. Ils ont fait quand même de très, très bons jeux. Mais dernièrement, ils ont assez enchaîné les sorties catastrophiques. Bah, Tintin, tu l'as assez dit. Mais bon, oui, il y avait cette pression derrière, mais le jeu est sorti complètement cassé. Vertigo, je sais que toi, Fred, tu l'as fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais tu avais eu un retour critique. Voilà, c'est toujours triste hein, de lire ça, surtout quand le studio a connu une très belle époque. Mais malheureusement, voilà, il y a eu des très mauvaises sorties dernièrement, quoi.
Ouais, puis il y a un truc encore à dire aussi, et je laisse la parole à Fred, c'est que je pense qu'ils ont été trop optimistes, en fait, de se lancer dans un Tintin 3D. Je vous rappelle qu'il y a eu quelques Tintins qui étaient sortis en 2D à l'époque, qui, je sais pas si vous vous souvenez, alors j'ai plus les Tintins 3D, mais qui étaient hyper difficiles d'ailleurs. Alors je crois qu'il y en a un qui c'était Tintin au Tibet de mémoire. Voilà.
Alors là, on est dans la grande histoire du jeu vidéo là. Hein.
Oui, oui, non, mais pour le coup, la 2D marchait bien. Je pense qu'ils auraient proposé un Tintin en 2D. Déjà, ça demande, je pense, moins de budget de développement, et je pense que ça aurait fonctionné en fait, tu vois, pour le coup. Et je pense que pour le coup, ils ont été vraiment trop ambitieux, à mon avis.
Ouais, alors je clique évidemment sur la news et l'actu, mais le problème, Jalma, c'est que aujourd'hui, pour en termes de commande, puisque a priori là la licence est du côté de Microïd, et donc c'est une commande qui a été faite auprès de Pendulo, ça c'est une démarche assez habituelle. Malheureusement, les jeux aujourd'hui, il faut les faire en 3D. Ça, c'est un prérequis. Donc voilà, je te rejoins en 2D. Je pense que ça aurait été peut-être moins catastrophique.
Super Mario Wonder, ça a très bien marché. C'est pas d'après, je crois.
Nintendo a pris le parti pris de définir son jeu comme ça. Mais quand tu fais des commandes avec des studios étrangers, ce qui est le cas ici. Je suis un petit peu plus, c'est un peu plus problématique. Alors, pour compléter ce que tu disais, compléter et aller dans ton sens au passage d'Alma, moi, je ne parlerai pas trop de l'actionnariat ici, mais en tout cas, si on va du côté de Pendulo...
Bah, quand tu sors un jeu qui n'est pas fini, c'est qu'il y a l'actionnariat derrière, hein, avec des deadlines, ouais, hein, je suis désolé.
Si on se place du côté de Pendulo Studio, puisqu'ils ont sorti un communiqué, en fait, Pendulo Studio, ils en ont gros sur la patate envers Microïd, qui est éditeur. Pourquoi ? Parce que, je cite, là j'ai deux, trois petits éléments de langage. Pendulo Studio, l'équipe de développement, dit s'être pliée aux prises de décision chaotiques de l'éditeur, Microïd, en sachant pertinemment que cela entraînerait des retards ou des baisses de qualité. Voilà, alors selon eux, Pendulo a précisé la marche à suivre et où est-ce qu'ils en étaient au niveau du développement au fur et à mesure, mais Microïd, l'éditeur, toujours selon le studio, leur aurait imposé des contraintes qui sont impossibles à tenir.
Oui, mais je te rappelle quand même que l'éditeur, c'est une forme d'actionnaire. Eux, ce qu'ils voient, c'est la rentrée d'argent.
Oui,
donc,
mais ce qui m'embête, en fait, tu vois, l'actionnariat, on parle de quelque part de l'apport financier, ce qui va nourrir un peu les productions que nous aimons. Et je peux te rejoindre là-dessus aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est que selon moi, de mon point de vue de joueur passionné, je pense que l'éditeur doit encadrer tout ça, c'est-à-dire encadrer les rentrées d'argent de l'actionnariat et également encadrer le bien-être de l'équipe de développement. Quand ça, t'arrives pas à le faire, eh ben t'arrives à des catastrophes. Et c'est le cas pour Tintin. Et comme Joss le disait très bien, malheureusement pour Pendulo, et ça explique peut-être pourquoi ils ont accepté ça, ils enchaînent plusieurs trucs qui n'ont pas spécialement marché, dont Alfred Hitchcock's Vertigo, et donc ils avaient besoin de se refaire. Et je pense que c'était ça la logique d'aller sur ce
type
de
contrat. Ouais, mais Joss, elle a quand même levé un point. Alors je pense pas qu'elle parlait de l'éditeur, mais moi, à un moment donné, je suis studio, je me demande si on pourrait vraiment faire confiance à l'éditeur Microïd. Parce que quand tu vois les jeux qu'ils ont sortis l'année dernière.
Il était pas mauvais, la Agatha Christie.
À part le crime de l'Orient Express, je te rappelle qu'ils ont sorti Goldorak, qui est pas très bon. Ils sortent Tintin qui se casse la gueule et ça aboutit sur des licenciements. Enfin, moi, à un moment donné, je suis un studio, je me pose quand même des questions sur est-ce que je passe des contrats d'édition avec Microïd.
T'as oublié Astérix, le deuxième opus ?
Ah oui, alors en plus, Astérix, effectivement, de ce que j'avais lu dans les tests, c'est un peu dans la continuité du 1 qu'on avait testé avec French, qui était très répétitif, même si on était quand même dans l'univers d'Astérix. Mais en termes de combat, c'est vrai qu'au bout d'une heure, on avait fait le tour du jeu. Et c'est dommage. Et alors, c'est dommage parce que en plus, ils exploitent des très bonnes licences quand même. Mais alors derrière, il débouche sur un jeu qui est moyen, voire nul. Et c'est vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est du gâchis. Et ils sont en train de nous gâcher. Alors, je vais encore lancer un appel. C'est un peu ma tradition en ce moment. Microïd, arrêtez le jeu vidéo. Allez sur d'autres terrains désormais, quoi.
Mais tu sais, si Nao était là, je pense que notre Nao, elle pourrait aussi aller dans le sens de ce que je vais dire. Mais le souci de Microïd, c'est qu'ils arrivent à mettre la main sur des super licences, tout ce que tu as cité, tout ce que tu viens de citer tous. Mais ensuite, ils n'ont, parce que ça coûte cher d'avoir accès aux licences, mais ensuite, ils sacrifient les budgets. En tout cas, ils les limitent à fond, comme si tu devais faire du low cost en production. Et du coup, forcément, ça a un impact humain ou un impact au niveau de la qualité de tes titres.
Mais tu sais que, Fred, on a le même problème en interne. Moi, Joss, en début d'année, il m'a demandé une augmentation. J'ai été obligé de me séparer de Nao, hein, à un moment donné.
Bon, j'aimerais qu'on passe au sujet numéro 4. Hein. Sea of Thieves est actuellement le jeu le plus vendu en précommande sur le PlayStation Store aux États-Unis. Hein. On le voit devant Dragon's Dogma, Rise of the Ronin et plusieurs autres jeux exclus Sony et attendus quand même par une grande majorité des joueurs. French, tu cliques ?
Oui, je clique. Je clique, bien sûr. Je clique. Alors, pas forcément. Moi, je ne suis pas forcément intéressé par Sea of Thieves. Qui a priori ne rentre pas dans le type de jeu qui
sont qui paraît il est très bien, moi il fait très envie.
Il paraît, mais tu vois, moi de base ça m'attire pas, voilà, ça ne m'attirait pas sur PC, ça m'attire pas maintenant. Par contre, pourquoi je clique? Parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Ces derniers temps, au sein de nos podcasts, au sein des discussions sur notre Twitter et sur plein de canaux, on a eu l'occasion de discuter sur le fait que Microsoft se lançait dans une logique plus d'éditeur avec certains titres. Certains titres qu'ils ont envie de sortir sur d'autres plateformes, c'était déjà le cas du PC depuis le début, puisque Microsoft sort tout sur ses Xbox et sur PC, mais également sort maintenant certains titres sur d'autres machines, c'était déjà le cas avant et ça se développe un peu aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre deux choses. Ça montre que le public est super intéressé par Sea of Thieves, bah, c'est cool pour eux, c'est cool pour les développeurs et c'est cool pour Microsoft. C'est également cool pour Microsoft, puisque la logique de Microsoft Editor, elle est bonne, finalement. Ça valide, en fait, le fait que les joueurs, ben, ils ont envie de jouer à des titres d'où qu'ils proviennent. Et c'est pas parce que c'est un titre qui a, entre guillemets, été sous couleur Microsoft que ça les intéresse pas sur PS5, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est doublement bénéfique pour l'équipe de développement, pour Microsoft et pour l'éclat, peut-être, indirectement, de la marque Xbox.
Ouais, complètement, je te rejoins. Moi, je clique pas spécialement, parce que, pareil, Sea of Thieves, c'est pas une licence qui me parle particulièrement, mais la question en fait est intéressante en fait, parce que comme tu dis, il y a un réel engouement pour ces licences fortes. Donc est-ce que ça va tendre un peu à l'ouverture des exclus sur d'autres supports? Est-ce que ça va le faire aussi chez Sony? Est-ce qu'on va voir en fait de moins en moins d'exclus? C'est la question qu'on peut se poser avec le succès de cette demande pour Sea of Thieves sur PlayStation.
Mais attendez, vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Il n'y avait pas besoin d'attendre de voir que Sea of Thieves allait marcher pour voir s'ils allaient s'exporter ailleurs. Alors, je rappelle, tu me parles d'exclus et tout. Je te rappelle que PlayStation, depuis quelques années maintenant, exporte ses exclus sur PC. Donc, eux, ils sont là déjà là-dedans.
Oui, oui.
French fait toujours une très bonne analyse, mais il oublie toujours l'essentiel. Bah, dis, ça, Microsoft peut se réjouir. Mais il y a un truc que tu oublies, c'est que PlayStation peut se réjouir aussi. Parce que je vous rappelle que quand un jeu est vendu sur PlayStation Store, c'est 30% pour PlayStation. Donc, eux aussi, de l'autre côté, se frottent les mains. Hein? Enfin, tout le monde est gagnant. Mais moi, je serais curieux de voir ce que diraient les fans de Xbox. Tu sais qu'ils veulent surtout pas que les exclus soient exportés sur PlayStation. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent quand on voit tous les licenciements qu'il y a en ce moment? Parce que finalement, pour éviter les licenciements, on voit de plus en plus qu'il va falloir exporter des jeux sur d'autres supports, comme les développements coûtent de plus en plus cher. Donc finalement, tout le monde est gagnant dans l'histoire. PlayStation est gagnant, Microsoft est gagnant, et ça permet aux studios aussi de ne pas connaître des licenciements. Maintenant, ce qu'il va falloir attendre de voir, même si moi j'en suis persuadé, c'est est-ce qu'ils vont exporter leurs jeux solo? Parce que là, on est vraiment sur un jeu multi en ligne. Moi, ça me paraît pas aberrant que tous les supports aient accès au jeu. Ça permet déjà d'avoir une continuité du jeu, parce que là, tu as du coup une nouvelle rentrée de joueurs. Donc, ça va rapporter des fonds aux développeurs de Sea of Thieves, qui va permettre de proposer régulièrement aussi des mises à jour. Hein. Donc, ça va aussi relancer l'intérêt du jeu. Même si moi, j'ai entendu beaucoup parler de ce jeu, à ce qui paraît, il est excellent, tu vois. Et j'ai envie de l'essayer. Alors, Fred, j'ai toujours un problème avec lui. Moi, je lui ai proposé un jour, je te le dis, Joss, une croisière. Et j'ai appris qu'il avait le mal de mer. Donc je pense que c'est ce qui le bloque sur Sea of Thieves.
C'est faux, j'ai plutôt le pied marin. Mais enfin, je te laisse à ta blague.
Bon, merci pour ce point actuel. On va tout de suite passer à la plaidoirie du geek. Alors, aujourd'hui, dans la plaidoirie du geek, nous allons avoir un débat passionnant autour de cette question. Est-ce qu'un jeu a-t-il besoin d'être nécessairement long et dense pour être bon? Par exemple, fourmilier de quêtes annexes avec un open world massif, enfin vous l'avez compris. Pour ou contre, je vais demander à chacun d'argumenter son point de vue pendant une minute, et suite à ça, nous ouvrirons le débat. French, tu veux commencer?
Avec plaisir, Joss, avec plaisir. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à dire que ça va beaucoup dépendre de nos convictions à chacun, la réponse qu'on va donner à tout ça. Ça va être très important, plus que des précédents débats qu'on a déjà eus là-dessus.
Arrête ton débat philosophique, on t'écoute maintenant.
Si, ça va être très important. Parce que, bon, on a l'habitude parfois de dire un petit peu dans la vie, dans plein de choses, que plus c'est long, plus c'est bon. Mais en vérité, c'est inexact de penser les choses comme ça. Et c'est un petit peu ça qui va être la base de mon raisonnement pour cette plaidoirie aujourd'hui.
Surtout si tu prends les transports SNCF, quoi.
Par exemple. Alors voilà, moi, mon parti pris, il va être le suivant. C'est que non, un jeu n'a pas besoin d'être plus long qu'outre mesure. Et il n'a pas besoin d'être bourré de contenu annexe pour être un bon jeu. Voilà, ça c'est clairement mon profil de joueur et c'est celui que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mon cas personnel, c'est que moi j'aime jouer une histoire principale. C'est-à-dire que je pense qu'une histoire principale doit d'abord se suffire à elle-même pour vous raconter, vous transmettre une émotion et vous faire voyager dans quelque chose. Mon profil de joueur, c'est également que j'aime picorer dans les annexes. Par exemple, si un jeu me plaît, j'ai peut-être envie un petit peu d'aller découvrir l'histoire d'un personnage secondaire, j'ai peut-être envie d'aller un petit peu chercher, allez, soyons fous, quelques collectibles qui traînent, des petites choses comme ça, mais c'est pas ma priorité. Voilà, et j'aime bien même les délaisser, tous ces petits points d'intérêt, quand le jeu, je sens que c'est pas le rythme de jeu qui m'intéresse en tant que joueur. Je pars vraiment, vraiment, vraiment du principe qu'une histoire principale doit toujours se suffire, quel que soit le jeu. Et je suis persuadé que Jalma aura des choses à redire là-dessus, mais je l'assume.
Effectivement, oui.
Je l'assume. En termes de jeu, par exemple, si je me fie un petit peu à ce que je discute depuis quelques semaines un peu sur les réseaux sociaux, je préfère de très très loin un jeu comme Hellblade premier du nom par exemple, qui est un jeu qui se termine en 10 heures à peu près maximum. Et à mon sens, tout est dit en termes d'histoire, en termes de quelles sont les intentions des développeurs, quelles sont les émotions qu'on veut transmettre, tout ça est dit en moins de 10 heures. Et ça, je trouve ça très fort. Je préfère ce genre de démarche d'un développeur plutôt qu'un jeu comme Banishers dont on a parlé il y a très peu de temps qui lui est bourré de qualité mais les dilue pendant des dizaines et des dizaines d'heures et du coup se perd un petit peu au niveau message.
Quel mauvais exemple, ça me donne tellement d'argumentaires pour la suite.
Ah non, moi je suis tellement d'accord
oui,
avec
mais
French
sauf que les quêtes annexes sont très bonnes dans le jeu donc il va pas sur le bon terrain.
Mais tu vas y revenir, ne t'inquiète
oui,
pas.
Oui, les quêtes annexes sont très bonnes mais il y a pardon, on en débattra après parce que pour moi c'est plus sur la narration ça pose problème et t'as pas besoin des fois le
mais,
problème
oui,
peut
parce
être
que
aussi dû à la narration.
Oui, mais c'est l'exploration qui pose problème mais les quêtes annexes sont très bonnes donc il tient pas son argumentaire.
Alors, oui, mais ça n'empêche qu'il y a une trop grosse longueur et que ça aurait dû être un donc pareil, le jeu est trop long, il aurait
sur le très mauvais exemple.
Non, très bon
votre
exemple,
honneur,
on en débattra après.
Votre honneur,
le point tout de suite à limite.
Votre
non,
honneur,
non, non,
Joss,
non.
Je demande du temps supplémentaire par rapport à ce vol manifeste.
Oui, bah, bien
été
sûr, ils seront aux États-Unis maintenant, quoi. Objection.
Vas-y, termine,
non,
French,
mais
termine.
En fait, moi, en tant que joueur, je suis vraiment défenseur du « soyez plus concis, soyez plus dynamique ». Je pense vraiment qu'un bon gameplay et une bonne histoire n'a pas besoin de s'étaler. Je pense qu'on peut vraiment être de plus en plus concis pour communiquer un message d'autant plus fort. Alors je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas encore, que moi par exemple j'aime les jeux d'horreur, j'aime le survival horror qui a un petit peu disparu aujourd'hui, et quand on reprend les grands classiques du survival horror, que ce soit des Resident Evil de la grande époque, des Silent Hill de la grande époque, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Mais ce sont des titres qui, sur le premier run, vous ne dépassiez pas les 12 heures de jeu. Vous faisiez peut-être plus longtemps parce que vous allez mourir, vous allez refaire des choses, mais en vérité l'aventure n'était pas aussi longue que ça. Et tout l'intérêt était de faire plusieurs runs et en fait de s'améliorer au fur et à mesure. Ça rappelle un peu la mécanique des rogues. Voilà, et donc ça, je tiens à le rappeler, je pense qu'une bonne histoire, elle peut être concise et rien ne vous empêche de rejouer quelque chose pour ressentir de nouveau les émotions et revivre cette histoire. Et ça, c'est très important et c'était mon point final pour cette plaidoirie parce que je pense qu'il faut savoir être concis et je l'illustre également.
Mais là où je reviens sur Banisher, il y a plusieurs points où ça va amener à débattre par la suite qui m'ont fait tiquer, notamment sur Hellblade, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur Banisher, là au fait où je suis d'accord, c'est parce que tu peux parler d'un open world trop grand, tu peux parler de trop de quêtes annexes, mais dans la longueur d'un jeu, quelque chose qui devient un peu soporifique, tu peux aussi parler de l'étirement de la narration. Et ça, il faut faire très attention parce que ça peut devenir ennuyant en fait, pour le joueur de faire de nombreux allers-retours obligatoires en fait, au travers du scénario pour pouvoir progresser et au final, ça peut casser le rythme et ça va venir desservir l'histoire. Et typiquement, Banisher est l'exemple parfait d'un jeu avec un open world qui est plutôt ok avec des quêtes annexes qui sont super intéressantes, mais d'une narration qui est trop étirée Et du coup, on en vient sur le côté ennuyant en fait du jeu, alors que s'il a été plus concis, on aurait eu un jeu pour moi nettement meilleur.
On va entendre ta plaidoirie, Djalma, avant d'ouvrir ce débat. Djalma, tu as une minute, on t'écoute.
Mais écoute, je suis une nouvelle fois en face d'un débatteur d'une extrême mauvaise foi qui cautionne le jeu court. Donc je vais en profiter quand même auprès de nos auditeurs pour rappeler les jeux préférés de French et l'occasion. Like a Dragon, qu'il a certé dans le dernier podcast, plus 100 heures de jeu. Final Fantasy VII.
Mais il l'a trouvé trop
long. Final Fantasy VII Rebirth, on sait qu'il va adorer. À mon avis, il va avoisiner les 100 heures
de
jeu. Je suis
à plus de 20 heures.
Il a adoré Zelda Tears of the Kingdom. Il a passé 150 heures dessus.
Pardon ?
Et j'en cite encore et encore. Enfin, la liste est tellement longue que c'est marrant. Ses jeux préférés, c'est souvent les plus longs. Alors j'en cite un dernier. Son jeu qu'il avait adoré il y a 2 ans, c'était Elden Ring. Il a passé environ 200 heures dessus.
Et t'as oublié Baldur's Gate 3 où j'ai passé plus de 100 heures déjà.
Voilà, oui. Bon, je pense que d'ailleurs, il m'encourage à soutenir mon argumentaire. Donc, vous voyez déjà que j'ai fait tomber sa plaidoirie en argument, hein, en un seul argument. J'enchaîne sur la main. Mais bien sûr que les gars, un jeu doit être long pour que ça soit bon. Parce que déjà, vous oubliez toujours un truc, vous ne mettez pas à la place du consommateur, c'est qu'un jeu, ça coûte cher, on en veut pour notre argent. Déjà.
Ouais, mais alors tu vois, pour moi, pardon, tu t'es appelé Edouard,
voilà.
vas-y.
Voilà, non mais je suis désolé, mais moi, je suis désolé, j'aime bien avoir un jeu long, à condition que, effectivement, là vous l'avez très bien dit, que le scénario ne s'étale pas dans le temps et qu'il y ait un jeu rythmé. Moi, je pense que ce qui est important aussi d'avoir dans un jeu, c'est aussi des quêtes annexes qui développent les personnages secondaires. Parce que souvent, le problème qu'il y a, c'est que d'avoir un jeu trop réduit, tu n'as pas le temps de t'attacher aux personnages secondaires. Vous avez quand même tous les deux aimé Spider-Man 2, il propose quand même des quêtes annexes qui permettent de développer certains ennemis, de connaître un peu leur personnalité, etc. Je donne l'exemple de Marco, par exemple, où on a une histoire, on a un fil conducteur derrière. Donc je pense quand même que c'est important d'avoir des quêtes annexes riches. Et c'était le cas de Banisher. Là où Banisher se perd, effectivement, c'est dans l'exploration qui aurait pu être plus réduite. Et je pense que là, pour le coup, c'est un étirement trop long. Autre chose, il y a des jeux qui ne permettent pas d'aller en ligne droite et pousse à explorer. Moi, je suis désolé, l'exemple d'Elden Ring. Moi, Elden Ring, mais quel kiff d'aller. Alors, pourtant, il n'y a aucune obligation. Je pourrais, dès le début, aller au premier donjon, etc. Sauf que pour ceux qui l'ont fait, tu te casses la gueule. Tu es obligé d'explorer, d'aller faire finalement ce qu'ils appellent, entre guillemets, des quêtes annexes, on va dire des cavernes, des mini-boss, etc. Et là, en plus, ça te récompense. Moi, personnellement, qui fais mes jeux en difficulté max, si je ne fais pas les quêtes annexes, voire certaines quêtes collectives, je ne peux pas augmenter mon XP ou mes compétences, etc. Qui fait qu'à un moment donné, je vais être bloqué. Actuellement, je joue également à FF7 Remake. Ils proposent des quêtes annexes, mais qui vont développer ce background avec les personnages secondaires. Donc je pense que c'est essentiel. Et je pense clairement que c'est essentiel d'avoir des jeux longs. En disant ça, cela ne veut pas dire que des jeux courts sont mauvais. Attention de ne pas faire de raccourcis. Voilà, je m'arrête là-dessus. Tout est dit. Donne-moi le point. Just qu'on gagne du temps, quoi.
Non, je vais quand même synthétiser rapidement. Toi, Djalma, tu penses que le jeu doit quand même offrir un certain panel de missions annexes avec une expérience assez longue pour creuser et être bonne et surtout pour justifier ton achat. Toi, Fred, tu penses qu'au contraire, le fait qu'il soit trop long peut casser cette expérience et sortir le joueur du jeu, tout simplement. Donc maintenant que vos deux plaidoiries sont faites, on va ouvrir le débat. Et Yadja, je me permets de commencer parce que je ne peux pas, moi, argumenter. Il y a plusieurs points que j'ai relevés dans vos deux arguments qui sont très intéressants. Vous parlez de Elden Ring. Pour moi, déjà, il y a deux types de jeux. Il y en a avec des mécaniques et en fait un système beaucoup plus complexe qui va demander un réel temps d'investissement de la part du joueur. Donc là, tu as très bien cité, tu as Elden Ring, tu as les Breath of the Wild, etc., qui vont demander quasiment une centaine d'heures. Mais du coup, tu n'as pas ce sentiment de lassitude, je trouve, sur ces jeux parce que l'expérience est là. C'est pas comme certains autres où ça va être du remplissage inutile pour allonger la durée de vie en fait du jeu. Et ça, on le ressent. On parlait de Ghost of Tsushima, mais Ghost of Tsushima peut être un exemple. Mad Max était pareil. L'Ombre du Mordor était pareil. Pour moi, en fait, ça c'est des jeux qui rajoutent, qui rallongent leur durée de vie. Alors déjà, c'est un argument marketing.
Mais rien ne t'oblige à faire ça aussi, d'aller faire les quêtes annexes.
Oui, mais c'est un... regarde, bah mais non. Si. Oui, mais regarde. Pour moi, en fait, c'est vraiment des quêtes no brain que j'appelle. Pour un argument marketing, parce que tu l'as dit, moi je veux en avoir pour mon argent. C'est vrai qu'un jeu aujourd'hui ça coûte cher, mais du coup ça devrait pas. Mais aujourd'hui, le temps d'un jeu devient justifie le prix d'un jeu, alors que ça n'a rien à voir. Et je préfère moi aussi une expérience
un peu plus concises comme Hellblade 2 qui a fait scandale en ligne, qui a 50€ pour 10 heures d'expérience, mais on se rappelle tous du 1 si on l'a fait. L'expérience, elle était là, c'était intense. Tu vois, je préfère ça à un jeu qui est concentré mais qui va me porter dans une expérience inédite, immersive, où je décroche pas, plutôt qu'un jeu qui va me perdre dans plein d'annexes useless, no brain, des collectibles. Il y en a beaucoup. Moi, ça peut être décourageant, ce genre de jeu. Typiquement, Valhalla, c'est un jeu qui m'a découragé parce que ça demande beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie d'investir ce temps.
Mais à l'inverse, t'as des The Witcher 3 ou des Red Dead Redemption 2 qui fonctionnent très bien, qui sont très longs. Donc c'est...
Ouais, mais ça...
Bah ouais, c'est pas ça. C'est des contre-arguments.
Mais eux, ils sont hyper quali.
C'est ça. C'est pas les mêmes annexes.
Et puis, en fait, ça va dépendre...
Incroyables.
Non, mais en plus, ça dépend ce que vous entendez par durée de vie. Parce que si on prend, par exemple, on va prendre des jeux récents, mais Prince of Persia, The Lost Crown.
Hello.
Je suis désolé, c'est quand même... On est sur du 25-30, voire plus d'heures de jeu. En fonction de la difficulté que tu mets, mais c'est un jeu qui se... Et là, en plus, je prends exprès un jeu qui n'a pas forcément un scénario très fort, mais c'est un jeu qui se renouvelle dans son level design. Donc c'est un plaisir de le découvrir, de voir la difficulté qui augmente. Et là, c'est très...
C'est un très bon exemple.
C'est très plaisant,
tu sais,
ça, par exemple.
C'est un jeu que pour moi, aurait mérité d'être plus court.
Ah, je crois pas. Ah,
pour moi, c'est un jeu
qui aurait mérité d'être plus court.
Mais tu vois, en fait, tu cites un excellent exemple. Et en fait, moi, la nuance que je mettrais là-dessus, et par rapport à tout ce que tu as cité, c'est en fait les jeux qui reposent totalement sur leur histoire et les jeux qui, au contraire, l'histoire est un petit peu plus useless. Parce que tu cites Prince of Persia, qu'on a tous beaucoup aimé dans l'équipe. Prince of Persia, l'histoire, franchement, on s'en fout un peu. Donc du coup, on a le plaisir de la découverte, des nouveaux biomes, des nouveaux pouvoirs.
Oui, mais ils auraient pu faire des biomes répétitifs, tu vois, il y a eu quand même un effort de
fait. Ils auraient pu, oui, ils s'en sortent très très bien. Ils s'en sortent très très bien. Moi, en fait, ce qui m'embête un petit peu, et c'est ça que j'ai voulu un petit peu défendre, mais ce n'est pas un argument définitif, je tiens à dire, c'est que je défends l'idée qu'il y a des temps forts et des temps faibles dans les jeux. Et moi, ce qui m'embête, c'est les jeux qui sont trop longs et du coup, qui te font vivre des temps faibles. Tu vois, tu m'as cité tout à l'heure Like a Dragon Infinite Wheels. Oui, c'est un des jeux que j'ai adoré cette année. C'est un des jeux vraiment que je trouve remarquable cette année. En revanche, t'aurais pu aller jusqu'au bout de la logique. C'est un jeu aussi, quand bien même je l'adore, je dis aussi qu'il est beaucoup trop long pour son propre bien. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Que l'intrigue principale fasse facilement 50-60 heures, par exemple, j'ai fait beaucoup plus parce que j'ai fait beaucoup d'annexes, pour le coup, et ben, à un moment donné, ça pose un problème si l'histoire n'est pas assez fluide.
Non, mais attends, j'interviens juste et Joss, après, je laisse la parole. Et je pense que, heureusement, que tu ne fais pas le métier d'avocat, parce qu'il y a de nombreuses incohérences, pardon, tu vois, je fais un lapsus peut-être révélateur, dans tes arguments. Je vais te prendre un contre-exemple, pour le coup, comme tu m'attaques sur... voilà. Tu me dis, il faut des jeux courts. Alors, je vais te citer un jeu que tu as détesté de notre saison 1. Les gens iront écouter. C'est Trek to Yumi qui dure 5 heures. C'est très condensé, pour le coup. Je pense qu'en 5 heures, on n'a pas le temps d'avoir des moments faibles, normalement, dans un jeu. Pourtant, tu as détesté Trek to Yumi. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand on suit ton argumentaire?
Eh ben moi, je te donne un contre-exemple.
Non, laisse-le répondre, s'il te plaît.
Tu prends des Inside, des Dordogne dernièrement qu'on a adoré, qui durent 5 heures. Et pareil, tu as une émotion hyper dense. Et pourtant, ce n'est pas des jeux interminables. Et tout est concentré dans ces 5 heures de jeu.
French n'a pas aimé Jusen, il dure 10
pour,
heures.
Je vais te répondre sur Trek to Yumi, puisque ça t'importe. Trek to Yumi, le côté...
Il dure 5 heures, si je te suis.
Oui,
hein.
oui, on est d'accord là-dessus. Le côté artistique était très, très bon. L'histoire est
en
plutôt...
noir et blanc, hein, on rappelle qu'il est en noir et blanc, etc. Et qu'il rappelle un peu tout ce qui est combat en 2D. C'est côté samouraï, hein, je crois, de mémoire.
Exactement,
hein, mais
il est en noir et blanc. C'est un hommage au film d'Akira Kurosawa. La bande-son est absolument magistrale. Moi, ce qui m'a embêté dans ce jeu-là, par exemple, c'est que les combats, je les ai trouvés chiants. Passer 1h, 1h30 de jeu, où t'as compris un peu la mécanique de Paran, et ben, j'ai trouvé que ça ne se renouvelait plus suffisamment. Et du coup, ça, tu vois, ici, ça m'a coupé un peu de mon plaisir. Et donc, c'est ça qui m'a un peu fait sortir du jeu. Donc, finalement, tu peux sortir d'un jeu pour plein de raisons, et pour moi, ça a été ça ici.
Donc, comme quoi, les jeux courts, si on suit ton argument, peuvent te déplaire. Hein. Finalement,
c'est pas toujours, synonyme de qualité, on est d'accord.
C'est sûr, ça dépend du jeu, mais c'est qu'en fait, dans les jeux longs, quand tu te retrouves avec des tonnes d'annexes ou une narration trop étirée,
rien ne vous oblige à consommer le jeu de cette manière. Quoi.
Oui, mais par exemple, l'exemple de Banisher, narration beaucoup trop étirée.
Mais
en fait,
Banisher, c'est le mauvais exemple.
Ouais,
tu,
mais non, mais
ne
oui, mais
pas
ça,
que là-dessus.
Ça, c'est un exemple. Et en fait, tu te retrouves à faire la même chose pendant une vingtaine d'heures. Et pour moi, ça te sort de la narration et ça te décourage dans ta progression.
Spider-Man 2, ne me dis pas que t'as pas fait les quêtes annexes, et pourtant elles sont ultra répétitives, notamment la quête de Marco. Je vais pas te donner les autres pour pas spoiler. Ouais, mais regarde, les laboratoires, c'est toujours la même chose dans Spider-Man 2. Enfin, il y en a plein des exemples comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a juste le système photo qui était sympa, mais il y a eu énormément de combats avec l'homme mystère, etc. C'est tout le temps la même chose dans Spider-Man 2. Alors, qu'est-ce que tu les as faites?
Qu'est-ce que tu réponds à ça, Josh?
C'est là où c'est vrai que c'est une question qui est assez personnelle. Yep. Parce qu'il y a des jeux avec qui vont demander un certain investissement qu'on va adorer. Alors là, je sors vraiment des Elden Ring, des Breath of the Wild qui demandent vraiment d'essayer, de réessayer, d'explorer. Là, je me concentre un peu plus sur les jeux un peu plus simples. Spider-Man 2, c'est des jeux qui restent quand même assez longs. Final Fantasy XVI, ça reste assez long et pourtant t'as pas besoin de t'investir autant qu'à Elden Ring, mais pour moi ça reste un jeu trop long. Mais là encore, Final Fantasy XVI, c'est un autre sujet. Pour moi, c'est un jeu qui se perd dans sa narration, tu vois.
Mais la narration est bonne, elle est juste diluée en fait.
C'est hyper mal équilibré, il peine à démarrer. Et pour
oui,
moi,
mais il y en a qui ont aimé FF16, oui, mais... vous pouvez pas dire qu'il est,
oui,
il est nul parce qu'il est long.
Tu dois passer une quinzaine d'heures avant d'arriver à un twist majeur pour rentrer dans l'histoire.
Mais moi j'ai kiffé.
Est-ce que t'as ce temps à investir aujourd'hui?
Oui, mais est-ce que t'aurais autant apprécié ces moments forts s'il n'y avait pas eu de moments faibles? Je te retourne la question.
J'ai rien apprécié.
C'est une question qu'on peut poser dans les matchs de foot, par exemple, mon cher Jalma. La question des moments forts et des moments faibles.
Exactement.
Tu m'y fais penser là. Mais après, moi, je pense que c'est pour répondre à ça, en fait, ça va dépendre de chacun, c'est-à-dire de chacun comment on apprécie les moments forts et les moments faibles. Je vais vraiment te prendre un exemple très rapide. Les titres que j'adore, un truc comme Baldur's Gate 3, par exemple, dont je suis over fan, je dois quand même reconnaître que suivant ta manière de jouer, il y a des moments faibles sur lesquels tu vas passer dans le jeu. Ça, c'est inévitable. Après, tout va dépendre en fait de comment tu perçois ces moments faibles et comment tu vis l'expérience, si tu la trouves intense, si tu trouves que ça vaut le coup par rapport à d'autres choses autour, et comment tu vas t'investir toi en tant que joueur. Et c'est ça, à mon avis, qui va faire la différence. Spider-Man 2 que tu as cité, et tout comme Joss, j'ai fait absolument tous les annexes et j'ai surkiffé l'expérience, sur toi, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas souhaité t'investir de la même façon et tu ne l'as pas ressenti de la même façon. Et ça se tient tout autant.
Oui, mais après, c'est pas une question que d'investissement, c'est une fonction de consommation. Il n'y a rien qui t'oblige à faire les quêtes annexes, voire les sous-quêtes, etc. T'as aucune obligation à les faire. Et je prends encore l'exemple, je suis désolé, de Red Dead Redemption 2 et The Witcher 3. Parce que là, elle parle beaucoup d'Elden Ring et Zelda, où c'est de l'exploration et de l'expérience du joueur. Mais là, c'est des jeux très, très narratifs, avec des quêtes très scénarisées, qu'elles soient annexes ou non. Et pourtant, c'est très appréciable, quoi. Donc, ça marche très bien. Et pourtant, les jeux sont très longs.
Il y a un truc qui me dérange dans ce que tu dis, c'est que, tu reviens sur... on n'est pas obligé de les faire, ces annexes, mais c'est bien que le jeu soit plus long, parce que pour le prix d'un jeu,
ça permet de développer les personnages secondaires.
Tu l'as dit au début.
Je suis désolé.
Moi, il y a quand même une stat. En moyenne, 10% des joueurs finissent leur jeu. Donc, c'est quand même une question qu'il faut se poser. À l'heure où aujourd'hui, on sait que les coûts de développement, ça coûte beaucoup trop cher. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile de faire des jeux aussi longs avec des annexes qui, au final, on ne va pas les faire parce qu'on n'a pas spécialement envie? Est-ce que c'est vraiment utile à l'heure où aujourd'hui, on sait qu'il y a des coupes budgétaires de partout, que l'industrie va mal, que les jeux coûtent trop cher? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça pour un argument marketing plutôt que de resserrer,
des jeux.
Est-ce que toi tu préférerais une expérience de 15 heures mais intense, où tu vis quelque chose, ou plutôt une expérience de 40 heures avec 36 missions annexes que tu vas pas faire? Réponds-moi à cette question.
Non mais Josh, déjà, tes statistiques elles sont très drôles. Alors j'ai envie de la balayer d'un revers de main. Déjà c'est sûr que si tu prends Saifu, qui est un jeu hyper difficile, forcément il y a 10% qui l'ont fini, quoi. Bon bref, déjà voilà ce qu'on peut dire d'une stat. La deuxième stat que je vais te donner, c'est qu'il va falloir que tu réalises qu'on est dans un mode de surconsommation. Et t'es la première à surconsommer. Maintenant,
ça n'a rien à voir avec la question que je viens de te poser.
Mais bien sûr que si, parce que je réponds déjà à ta stat. Quand t'as accès au Game Pass, donc t'as accès à des jeux gratuits en payant un abonnement. Quand t'as accès au PlayStation Store, etc. En fait, t'as pas le temps de finir un jeu, t'en as déjà trois qui sortent. Et vous le savez très bien que nous, depuis qu'on fait du podcast, des fois on galère même à finir des jeux. Je vous rappelle que le 22 mars, t'as quand même Dragon Dogma 2 qui sort, Rise of the Ronin et Princess Peach. T'as trop de jeux, à un moment donné,
Ça n'empêche que dans ces 10%, c'est le casual gamer qui va s'acheter 3 jeux dans l'année et qui va
même
pas aller jusqu'au
bout. Il y a beaucoup d'hardcore gamers qui ont à peine le temps de
finir
leur jeu.
Moi, en fait, le truc que je te demande, c'est la question que je te demande, réponds-moi si t'arrives à me prouver l'inverse, c'est est-ce que c'est vraiment utile de faire un jeu avec des remplissages inutiles pour rallonger le jeu?
Mais je suis désolé, Baldur's Gate 3, il y a plein de gens qui l'ont
terminé. Oui, Baldur's Gate 3,
Tears of the Kingdom, je connais plein de gens qui ont passé 200 heures dessus, mais tu peux pas me dire le contraire.
Oui, mais Zelda Tears of the Kingdom,
Elden Ring,
oui, mais ça justement, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de jeux. Il y a des jeux qui vont demander énormément d'heures parce que t'as un temps d'investissement de la part du joueur à faire pour l'appréhension du jeu, la compréhension et plein d'autres mécaniques, parce que c'est des mécaniques complexes. Et t'as des jeux comme Assassin's Creed Valhalla, qui peut te durer 50-60 heures, où je te prenais l'exemple de Final Fantasy, et qui au final...
Mais moi, Valhalla, j'ai apprécié les quêtes secondaires personnellement, parce que je me suis investi dans le jeu.
Est-ce que t'as fait tous les collectibles? Est-ce que t'as fait... Moi, personnellement, Valhalla, c'est mon pire open, ça fait partie de mes pire open world.
Ouais, voilà, parce c'est subjectif, que ça, c'est ton c'est avis. Parce que t'as une détestation d'Ubisoft qui devient maladive.
Mais non, pas du tout. Mais pas du tout.
Mais bien sûr que
mais
oui,
tu comprends
on le sait
bien,
très
mais
bien.
Tu comprends bien.
C'est
mais
comme
tu
avec Nintendo. Non mais ouais, franchement, on devrait
non,
changer
mais tu
la
comprends bien
hein,
que, tu comprends bien qu'il y a deux styles de jeux que j'essaye de dissocier entre ces catégories d'open
oui,
world massive
oublies,
à Elden Ring.
Oui, mais ce que tu oublies, c'est
que et les Valhalla avec des collectibles useless et des quêtes FedEx, quoi.
Oui, mais tu sais, si tu m'en... Mais si tu m'empêches de parler, que tu monopolises la parole, on appelle ça une dictature. Je suis désolé de te le dire. Moi, Assassin's Creed Valhalla, j'ai adoré. Et je te le dis honnêtement, je l'ai fini quasi à 100%. Je suis allé chercher le moindre coffre, etc. Est-ce qu'il y a une utilité? Je vais te dire honnêtement, pas forcément. Encore que moi, je l'ai fait en mode difficile. Donc, j'avais un argument d'aller chercher des coffres pour renforcer mon setup, etc. Pour justement pouvoir faire tomber certains boss qui étaient quand même assez relevés. Vous l'avez dit, tout dépend de l'investissement du joueur. Donc, tu ne peux pas me dire que ça sert à rien. Quand moi j'ai passé, parce que tu me fais rire quand on me dit Valhalla, tu passes 60 heures, tu passes plus de 150 heures si tu te donnes à fond. Donc ça va dépendre. Et il y a des joueurs qui ont adoré Valhalla, je suis désolé de le dire, et qui l'ont fait en 150 heures, comme ils ont fait 150 heures sur Origin, etc. Je suis désolé.
Je vais te faire plaisir, Jalma. Je vais te faire plaisir parce que je te rejoins sur Valhalla. C'est un jeu que j'ai aussi adoré et j'ai adoré y passer autant d'heures.
Et parce que l'univers est agréable, que chaque région est variée. Mais... que chaque région raconte une histoire qui est propre.
Exactement, mais c'est ce qu'on disait plus tôt. Ça dépend de l'investissement du joueur et de ses attentes et de comment il a envie de s'investir dans le monde qu'on lui propose. Pourquoi je te dis ça? Parce que Valhalla, qui est un Assassin's Creed que je kiffe vraiment, de par l'univers viking, mais également de par la vastitude de ce qu'il a à nous proposer au niveau exploration et au niveau des missions annexes, moi, je vais quand même te préciser un truc. C'est qu'en termes d'histoire, il a des très bons moments, mais les très bons moments sont rares. Donc, il y a quand même un problème de déséquilibre dans ce type de jeu. Et j'ai beau aimer l'expérience, je tiens quand même à le signaler.
Oui, mais après, je vais, tu vois, il y a un truc qui me vient en tête, c'est que, tu sais, là, Joss me taxe sur le prix. Parce qu'effectivement, moi, je pense que le prix est quand même important par rapport à la longueur du jeu. Joss était quand même une des premières à nous dire, après Prince of Persia, je trouve que pour 50 euros, c'est un peu cher vu la longueur du jeu.
Non, j'ai pas dit pour la longueur, j'ai dit pour le style de jeu.
Bah ouais, mais bon, donc ça veut dire que le prix te pose
un
problème.
Ça n'a rien à voir,
parce
qu'aujourd'hui, la plupart des Metroidvania, tu les trouves autour des 20 euros. Là, Assassin's Creed, il est à 50 balles.
Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je pense que, par exemple, Zo qui va sortir, il sera au moins à 30 euros. Si ce n'est plus, je pense pas qu'il va être à 20 euros.
C'est pas 50 balles, quoi.
Bah, je sais pas où tu trouves tes jeux, mais je veux bien ton magasin de jeux vidéo parce que ça m'intéresse, hein, pour le coup. Hein. Non, mais voilà, donc le prix aussi t'intéresse, je suis désolé.
Non,
moi,
le prix ne m'intéresse pas. Le prix ne m'intéresse pas pour la longueur, c'est là où tu fais la même gamme. C'est
mais,
pas
maintenant, quand tu mets 4...
Par exemple, moi, ça ne me choque pas que Hellblade 2 coûte 50 euros et qu'il dure 10 heures. Parce que je connais la licence, je sais que
Hellblade
c'est...
Hellblade 2, il est sur le Game Pass, les gars.
Oui, non, mais même... moi, par exemple, si voilà, je peux l'acheter en physique, le prix de 50 balles, ça ne me choque pas. Je vais te le dire honnêtement, parce que je connais la licence, je sais que... Le premier 10 heures, c'était suffisamment long pour tout ce qu'il a à raconter.
Oui.
On a une qualité technique dans le jeu qui est énorme. Donc pour moi, 50 euros, justifie pas la longueur, mais le prix justifie la qualité
graphique,
technique,
etc. Là, on parle des jeux de 50 euros. La majorité des jeux maintenant coûtent quand même 80 euros. Sur les... Ah, il faut quand même être raisonnable. Là. Vous allez un peu sur l'exception aussi.
Bah
hein.
Ouais, mais le souci, et puis je crois que tu la partages aussi, d'ailleurs, cette observation, Jalma, le souci, c'est que raisonner en termes de tarifs, je comprends d'un point de vue consommateur.
C'est un argument parmi d'autres que j'ai donné. Ne relevez pas que ça, vous
ouais,
d'accord.
Non, mais je suis pas en train de t'attaquer.
Mais je te sens venir, il y a une coalition contre moi depuis deux podcasts.
Non, c'est pas une coalition.
Je vais
tenter un pas de côté, si vous m'y autorisez. Je vais tenter un pas de côté. Quand vous achetez une bonne BD, ça va être facilement 15 euros. La bonne BD, en une heure, vous allez l'avoir lue. Donc une heure, 15 euros. La durée de vie de la BD, entre guillemets, c'est 15 euros. Rapprocher au milieu du jeu vidéo, ça peut faire mal ou pas mal, je ne sais pas. Je pense sincèrement que la question du prix par rapport à au temps de jeu, c'est une aberration. Mais ça, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus.
Oui, mais attends, il y a des familles modestes qui réfléchissent autrement, qui n'ont pas forcément les moyens aussi. Il y a des familles, il faut quand même le rappeler, qui peuvent se payer peut-être un jeu par mois. Et je pense que ce n'est pas toujours sûr. Je pense qu'ils réfléchissent quand même quand ils achètent un jeu à leur enfant, qui a une durée de vie longue. Parce que si t'as ton... C'est ça que vous oubliez, en fait. C'est que si tu as ton enfant... qui au bout de 20 heures dit « Ah maman, papa, j'ai fini le jeu, vous pouvez m'en acheter un autre bah, », c'est peut-être con, mais ils préfèrent peut-être mettre dans un jeu qui va durer long. Ça leur évitera peut-être, pour faire des économies, de racheter un jeu régulièrement aussi. Je pense qu'il y a quand même certaines familles...
Arrête, quand tu vois que dans les Quand tu vois que dans les foyers, ce qui est majoritairement implanté, c'est la Switch, c'est pas les jeux les plus longs en général sur Switch, à part si on part sur les Xenoblade Chronicles.
Les Zelda.
À part si on part sur les Xenoblade Chronicles, etc. Mais quand on parle de jeux familiaux, moi je pense à Mario, je pense à Pikmin, je pense à Kirby, je pense à tout ça.
Pikmin, il dure assez longtemps si tu fais le 100%.
Oui, mais bon, c'est pas des jeux avec 36 000 annexes.
Je comprends ce que Joss veut dire. C'est-à-dire que l'aventure principale pour voir le générique de fin, ça c'est quand même relativement court, y compris dans Pikmin. Par contre, effectivement, tu as beaucoup d'autres contenus, Mario Wonder compris, qui se découvrent par la suite après le
jeu. Moi, je vais dire, j'ai la fille d'une amie qui joue à Zelda Tears of the Kingdom, elle a plus de 200 heures de jeu, tu vois, et je pense qu'il y a certaines familles modestes, ne l'oubliez pas, qui jouent, je pense, ce genre de réflexion, ne l'oubliez pas vraiment.
En fait, moi, juste ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, ça en soit un argument marketing, parce que déjà, non seulement ça fait rallonger les coûts de développement pour les studios, ça rallonge le temps de travail. Alors qu'en fait, mon point de vue, c'est juste que ça n'a pas besoin d'être nécessairement long, avec 36 000 annexes, useless. Tandis que si on a une histoire concise, avec assez d'annexes suffisantes pour développer le lore ou quoi que ce soit...
Il y a un truc que tu oublies, mais c'est, je crois, on n'en a pas parlé, je vous le dis, ce sera mon dernier argument, parce qu'après, je me considérais vainqueur. C'est l'attente du joueur. Et je vais donner un très bon exemple, l'attente du joueur. Imaginons, si on suit vos arguments à vous deux, on propose GTA 6, qui est, je pense, le jeu le plus attendu de la décennie auprès de joueurs, et que tu leur proposes une aventure de 15 heures, sans quête annexe.
Mais
j'ai hâte de voir la réaction des joueurs.
C'est normal, parce qu'on connaît la licence. Bien sûr que Rockstar ne va pas faire ça, parce que ça fait combien d'épisodes qui sont sortis, on connaît comment ça fonctionne. C'est comme si demain, on va te dire... je sais pas, une licence culte, bah vas-y, on va t'en faire un. Typiquement BioShock, on connaît comme c'est des histoires concises, bon, qui ont quand même une certaine durée de vie, hein, et qui peuvent. Et
BioShock,
qui peuvent...
c'est plus niche que tu imagines, à mon avis.
Exemple contre exemple, BioShock aujourd'hui, voilà, on connaît sa durée, c'est un jeu niche, ça dure à peu près 25 heures, t'as quand même quelques trucs, bon, t'as quand même quelques.
Pas mal, 25 heures pour un FPS.
Quelques narrations étirées, je trouve, notamment dans le 1 qui t'oblige à faire quelques allers-retours qui sont un peu inutiles, mais bon, là, le prochain qui est prévu, ils veulent le faire en open world. Bah, crois-moi, ça me fait peur. Parce que je vois pas la licence BioShock étirée comme ça. Inversement, tu me fais un GTA, tu me fais... GTA, c'est connu comme un open world. Tu me dis, le prochain opus, ça va être un jeu narratif. Je vais pas comprendre. Bien sûr, c'est
GTA,
normal
c'est
que
quand même
licences...
un jeu narratif, un peu.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Une aventure solo narrative, centrée sur l'histoire, avec des phases semi-ouvertes, un peu à la BioShock, etc. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, ça choquerait les joueurs si... GTA durerait 15 heures et que ce soit beaucoup plus concis parce qu'on connaît la licence et on sait qu'elle est comme
mais
telle.
Mais je te rappelle qu'il y a des gens qui ont pété un cap quand ils ont dit que LB2 allait avoir une durée de vie de 10-12 heures.
Ils ont pété un cap parce qu'ils n'ont jamais fait le 1.
C'est ce qu'on a rappelé un peu plus tôt.
Mais ça, tu n'en sais rien.
Ils n'ont jamais fait le 1 s'ils ont pété un câble. Bah, si tu connais pas la licence, renseigne-toi avant de gueuler.
Ils s'attendaient peut-être à un jeu plus long en ayant fait le 1, tu n'en sais rien.
Bah oui, mais renseigne-toi. Non,
pour le coup, il y a tous les profils dans la nature, Jalma, mais effectivement, moi j'ai quand même l'impression que beaucoup...
Merci, je le savais pas, je découvre la vie, merci grâce à toi.
Ouais, je sais, mais tu sais, j'ai envie d'être gentil avec toi, tu vois, j'ai pas envie de te défoncer. Mais je pense quand même que beaucoup ont cru que Hellblade 2 allait être le God of War de la Xbox, donc d'où le problème de la durée de vie. Mais ceci dit, je voulais répondre à un
peu
truc.
Comme Joss avec Banishar et God of War, d'ailleurs.
Un petit peu. Je voulais surtout répondre à un point que tu citais à juste titre sur GTA. GTA qui est effectivement le prochain GTA, qui est GTA 6, qui est immensément attendu. Et même au sein de l'équipe, on va pas se mentir, on a très envie d'y jouer. Hein. Mais le truc avec GTA ou Red Dead Redemption ou tous ces titres-là, c'est qu'on pourrait éventuellement les comparer à The Witcher 3, puisque c'est un jeu qu'on aime aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des jeux qui sont... très travaillés au niveau de leur contenu annexe, au niveau de leurs intrigues, au niveau de leurs personnages, au niveau de ce que tu vas picorer par-ci, par-là, dans la ville. Donc du coup, ce type de jeu qui dure beaucoup plus longtemps, mais là, tu vois, ça ne me choque absolument pas. Je suis content de passer 100 heures dans la ville de GTA, dans les villes de GTA.
Vous commencez à me rejoindre petit à petit dans mes arguments.
Ça va dépendre des jeux. Et ça va dépendre des jeux, tout simplement. Pour ma part, la seule chose que je t'ai dit, c'est que j'aime bien des histoires un petit peu plus concises. Et comme on sait que les studios de dev n'ont pas toujours des moyens illimités, je préfère qu'ils fassent des jeux plus courts avec un gros travail sur l'histoire, leurs personnages, plutôt qu'un jeu qui s'étale. Dernier exemple, hyper rapide, je suis en plein Final Fantasy VII Rebirth. C'est un excellent jeu, on en reparlera bientôt, c'est un excellent jeu. Il y a quand même des choses qui sont quand même sérieusement moyennes au sein du jeu.
Alors mon petit French, un dernier troll, et moi je m'arrête là, t'es pas obligé de me répondre, est-ce qu'une histoire d'amour que tu vis Imaginons, tu vis une histoire d'amour, est-ce que tu vis une histoire courte ou longue? Voilà, tu réfléchiras à ça.
Je sais pas, en fait, j'ai envie de donner le point à French, mais Djalma, tu vas faire la gueule.
Non, mais t'as pas réussi.
La différence où la dernière fois, j'étais totalement d'accord avec toi.
Bah oui, mais tu lui as quand même donné le point, alors.
Oui,
bon.
Parce que French avait réussi à me retourner le cerveau.
Oui, bah
là,
alors.
T'as pas réussi à me retourner le cerveau.
Tu peux reconnaître en podcast que là, le dernier point de la dernière émission, t'aurais dû me le donner. Au moins, à vous, et en pur, tu lui donnes
la. Tu l'aurais mérité, et j'ai donné un point de bon argument à French parce qu'il a quand même réussi à me retourner un peu le cerveau en me disant,
j'en viens à négocier des points,
en fait,
les gars.
Il m'a dit, il a pas, je me suis dit, il a pas totalement tort. Et
non,
c'est ça.
Je me suis
tandis
dit...
que là, j'ai trouvé tes arguments pas solides.
Non, tu t'es dit, je me suis dit, j'ai eu pitié de lui, tu vois, son argument était merdique la dernière fois, je vais lui donner.
Non.
Et là, t'étais d'accord avec lui dès le départ, j'ai tout donné, moi. Là, je suis en transpiration. Je sais même pas si je vais arriver au coffre modifié dans l'état où je suis.
Non, non, en conclusion, moi, je trouve qu'un jeu n'a pas besoin d'être nécessairement long, on va dire, pour être bon, sauf exception. Et on a pris l'exemple des Elden Ring, des Zelda, qui demandent tellement d'investissement que t'es obligé de mettre du temps, en fait, tout simplement sur le jeu. Après, bien évidemment, ça reste subjectif,
joueur,
on n'est pas tous réceptifs de la même manière, même si il est quand même commun de constater qu'un jeu avec une narration à rallonge, ou bien un open world gonflé, ou des annexes à foison avec des collectibles, casse l'immersion du joueur. Et je le redis, hein, c'est pour cause, 90% des joueurs ne finissent pas leur jeu. Donc c'est un fait, c'est un fait.
En tout cas, bravo French pour cette victoire, tu l'as bien soudoyé, merci.
Non, il est juste important
de rappeler... Je te dirais qu'on va juger ça.
Il est juste important de rappeler qu'en conclusion finale, la durée de vie, en fait, ça n'a aucun rapport avec la qualité du jeu. Ce qui compte, c'est l'équilibre et l'expérience, voilà. C'est vraiment ça le plus important. Écoutez, merci pour vos deux plaidoiries, c'était fort intéressant. Djalma, tu es encore à la traîne. On se retrouve pour le coffre maudit.
Allez, let's go.
C'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit.
Alors, le coffre maudit, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire un rapide rappel. L'idée, c'est une rubrique décomplexée. À chaque podcast, elle sera différente. Ça pourrait être un quiz, une question mystère, un débat maudit ou bien même un blind test, pourquoi pas. On verra, le coffre piochera pour nous le jeu du jour. Et aujourd'hui, ce sera donc la question inversée. Aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est vos pires déceptions, vos pires expériences, vos pires jeux ever. Enfin, vous l'avez compris, on n'est pas là pour faire des éloges. On est là pour savoir vos pires expériences vidéoludiques. On est là pour casser du game. Oh, c'est très bien dit, Djalma.
Alors, ma pire expérience en termes de couple, c'était... Ah non, je me plante peut-être.
Tu vois, ça l'a fait réfléchir, l'histoire d'amour longue ou courte. Hein. Tu vois, il est en
réflexion.
Ça va trop
loin, ça va trop loin. Question numéro 1. Selon vous, quel jeu propose le pire open world?
Bon, je ne vais pas me faire des amis. Moi, c'est Zelda Breath of the Wild.
Non.
Alors, je vais mieux... Ah si, mais je vais me justifier quand même, parce que pour le coup,
je comprends.
Tu vas me soutenir, il y a eu beaucoup de déçus, ouais. Parce qu'effectivement, ils ont tenté une nouvelle expérience de jeu en proposant un monde ouvert, mais on en parlait tout à l'heure, ils se sont cassés la gueule sur le scénario proposé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas retrouvé l'âme d'un Zelda, je n'ai pas retrouvé les donjons que j'adorais, notamment sur Ocarina of Time, Wind Waker ou Majora's Mask, qui était un peu moins aimé des joueurs. Je n'ai pas retrouvé cette ambiance d'un Zelda qui a été cassée par cet open world-là. Et je pense que justement, c'est ça qui est dommage. Et des retours que j'ai eu de Tears of the Kingdom, qui est quand même pour le coup un gros DLC, selon moi, ils ont réussi à pallier ce problème-là, où le scénario avait l'air beaucoup plus fort, justement. Ils ont réussi à corriger les erreurs du premier. C'est pour ça que je parle de le DLC, parce que quand tu corriges les erreurs du 1, voilà, c'est mon avis.
Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, Djalma, sur... C'est un peu l'exemple que je prenais avec BioShock qui veut tourner sa licence en open world, tu vois. Des fois, c'est pas la meilleure idée, mais...
Attention à pas se perdre,
c'est
voilà.
C'est ça. Moi, j'avais pas trop d'idées, mais on en a parlé, donc Valhalla, en fait. Je pense que c'était, pour moi, la formule de trop, même si je sais que vous avez adoré, vous. Pour moi, je pense que c'était la formule de trop, et même si la map, elle était plus petite en plus qu'Origine et Odyssée, hein. Je pense que c'est juste la formule de trop, en fait, qui m'a découragée avec tous les collectibles et tout. J'avais l'impression que ça n'en finissait plus. Et du coup, ça m'a tellement sorti de l'histoire que j'ai eu du mal à me remettre dedans. Et à un moment donné, j'ai fait pause et je ne suis jamais retournée. Donc ça, si on parle de pire open world, bon, ça reste... J'en ai pas vraiment des pires, mais ça fait partie des expériences d'open world que j'ai pas vraiment aimées au même niveau que...
Que Banisher, non?
Que Banisher, ce qui n'était pas incroyable, mais Horizon Forbidden West.
C'était pas un open world, Banisher, hein,
oui,
c'était
oui,
du monde
oui.
Semi-ouvert.
Non, mais au même niveau que Horizon Forbidden West, j'avais tellement aimé le premier opus, et là, le deuxième, je sais pas, ça m'a découragé, la map, trop de trucs tout de suite qui apparaissent, immense, trop de collectibles, qui m'ont sorti l'histoire. Dommage, ça fait partie des open world, ouais, tu vois, un peu pour moi mal équilibré. Enfin bref.
French.
Pour une fois, je vais être en désaccord avec Jalma, bon ça c'est normal, et avec Joss, puisque Horizon Forbidden...
Je sens le Ubisoft bashing arriver, regardez bien.
Horizon Forbidden West, le second Horizon, je trouve qu'il est quand même très 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 bon. J'ai pas ressenti du tout l'espèce de lassitude que tu évoques, Joss. Bon, même si je peux comprendre. Et puis alors, Jalma c'est le pire. Zelda Breath of the Wild, mais... C'est le jeu le plus formidable en termes d'open world.
Mais selon toi,
mais
il y avait beaucoup
ça,
de déçus. Oui, mais attends, il a jamais fait Ocarina of Time. Donc déjà, il a pas les bases. Donc forcément, il aime.
J'en ai fait d'autres.
Non, mais il faudrait quand même qu'on fasse un truc pour la GG, Jalma. Qu'on se fasse Breath of the Wild, tous les deux. Et que
mais
ça
tu
parte
pas plutôt qu'on
cas.
Fasse Tears of the Parce Kingdom, même... qui est quand même mieux.
Bah non, mais il faut qu'on fasse Breath of the Wild.
Ah,
mais
moi, je peux pas le refaire, les gars. C'est pas possible.
Depuis le temps qu'on se dit, vas-y, on va se le refaire, on va y essayer.
Mais mets-nous sur Tears of the Kingdom à la limite, mets-nous sur un jeu qui s'est amélioré,
j'sais
quoi.
Je sais pas, moi, je pense qu'il faudrait.
La version 2.0.
Faut que je l'essaie l'expérience, tu vois.
Bon, alors.
Mais sinon, on fait les deux, on
est
fou. On fait les deux, on va passer 300 heures dessus.
On va les laisser à leur fight, si vous permettez, vous qui nous écoutez. Moi, quand j'ai préparé un petit peu ces petites questions, celui que j'ai envie de citer. C'est aussi un Assassin's Creed, comme Joss.
Voilà, Ubisoft bashing.
Voilà, voilà. C'est forcément pour faire chier Jalma, vous le savez bien.
Exactement. Bon, en plus, tu vas citer celui que j'aime le moins de la licence.
Pour le coup, j'aime beaucoup la saga Assassin's Creed. Je suis vraiment over fan, en vérité. Mais Syndicate, c'est celui qui m'a moins plu. Alors, pourquoi il m'a moins plu? C'est pas l'open world le plus dingue que Ubisoft ait proposé avec la saga. En fait, ils ont essayé de faire un peu leur Gangs of New York. Enfin, plutôt leur Gangs of London, même, peut-être plutôt ici, pour rendre hommage au film de Scorsese. Ils ont essayé de faire un petit peu la guerre des gangs au sein de différents quartiers et d'essayer de faire un petit peu des batailles et essayer de faire progresser des personnages comme ça. En ayant en plus deux personnages jouables, puisqu'il y avait un personnage masculin et un personnage féminin, avec chacun leurs capacités spécifiques. Sur le papier, c'est bourré d'idées qui sont très intéressantes. Mais en définitive... Cette espèce de guerre de territoire qu'ils ont essayé de faire en interconnectant des quartiers, pour moi, c'est un petit peu le pire que de ce que Ubi peut proposer en zone
oui,
grande ouverte.
Oui, alors French, si tu avais fait un peu plus bosser ta rubrique, et là, je sais que tu vas me rejoindre quand je vais te donner le jeu. Si tu voulais aller du côté d'Ubisoft et que tu voulais citer un open world merdique, tu aurais dû dire Watch Dogs 3. Et là, je pense que
ouais,
beaucoup de
oui,
gens t'auraient rejoint.
Alors,
parce que là, Watch Dogs 3, c'est encore pire, je pense, que ce que tu viens de citer.
Watch Dogs Légion, tu veux dire, le troisième?
Oui, le troisième,
ah,
oui.
Ouais, ben bah, je l'ai pas fait celui-ci. Pour le coup, j'ai fait le 1 et le 2. Et le 1, j'ai plutôt aimé. Le 2, moyennement.
Oui, mais le 2, bah voilà, tu vois, et le Watch Dogs 3, ils se sont cassés la gueule. Bon, bref.
J'y ai pas joué, donc je ne le cite pas pour.
Bon, deuxième question. Selon vous, quel jeu propose les pires quêtes annexes? French, Jalma a commencé tout à l'heure, donc French.
Alors, c'est facile. Ça a été très facile. Quand je vois cette question, il y en a un qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Il s'appelle Final Fantasy XVI.
Pareil.
Et je veux pas me faire des amis, j'en ai bien conscience. Final Fantasy XVI, pourquoi? Pas parce que, en fait, même si le jeu a sûrement des qualités, enfin, je demande à Jalma quand j'ai envie de voir les qualités, ou je demande à d'autres personnes dans mon entourage, puisque c'est pas trop mon cas, mais en termes de quête annexe, un jeu qui te fait vivre, on va dire, allez, trois quarts de quêtes annexes qui sont merdiques
useless,
au possible, à
inutile.
Base de plats à servir à la clientèle dans un pseudo-bar, dans un camp et des choses comme ça, avant de te proposer dans le dernier quart des missions annexes des trucs un peu plus intéressants et construits et intenses au niveau des personnages, c'est un truc, honnêtement, à part les MMORPG qui ont d'autres qualités par ailleurs, c'est un truc que j'avais rarement vu en jeu solo, quoi. Donc c'est un jeu qui s'illustre bien pour moi dans les quêtes annexes merdiques.
Oui, je réponds juste à French, en fait. Je pense que les pires quêtes annexes, et en plus, ils se trompent de Final Fantasy, alors je l'invite à aller voir quelques petites vidéos sur Internet, c'est FF10.
Ouais, je l'ai fait aussi.
C'est à regarder sur FF10, je sais pas si tu l'as fait. Comment obtenir les deux boss optionnels du jeu? Alors, j'ai plus les noms en tête. Tu iras voir les conditions des quêtes annexes qu'il faut faire pour débloquer les deux boss optionnels. Tu iras juste regarder sur Internet. Et là, tu vas te compte que FF16, c'est des quêtes annexes sympas à faire à côté. On va juste vérifier comment obtenir les deux boss optionnels. Et alors, moi, je vais te citer la pire quête annexe d'un jeu vidéo. Je suis désolé, les gars, mais on va revenir sur Zelda The Breath of the Wild. C'est la quête des Korogu. La quête des Korogu, c'est des petites noix récupérées. Donc, si tu veux finir Zelda à 100% pour les plus passionnés, tu as 999 noix à répartir sur la map pour les récupérer. Et vous irez juste voir sur Internet, et
oui.
Je ne vais pas spoiler, qu'est-ce qu'on vous donne comme succès derrière. C'est assez incroyable de se faire
chier
autant pour récupérer des noix, pour avoir un résultat merdique derrière, c'est incroyable. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette quête des Korogu et aller voir vraiment sur FF10 comment vous récupérez les deux boss optionnels sur FF10 parce que c'est assez incroyable et FF16 est vraiment très bien.
Mon cher Jalma, je tiens juste à ajouter vite fait que dans Tears of the Kingdom que tu n'as pas joué,
il y a le même problème.
Ils ont ressorti la même chose. Hein.
Moi, ça ne vous intéresse pas, mais c'était aussi Final Fantasy XVI. Hein. C'est aussi Final Fantasy XVI qui, pour moi, un gros problème de rembourrage.
Jouez au 10, les gars, hein, vous allez voir.
T'as un gros problème de rembourrage avec des quêtes complètement inutiles. Et au final, c'est comme sa narration, comme je le disais tout à l'heure. Il faut arriver au dernier arc pour arriver à attendre d'avoir des trucs intéressants. Sur un jeu qui demande à peu près une soixantaine d'heures, c'est quand même un peu couillon.
Mais je me demande si c'est pas un peu un problème des FF en général, même ceux qu'on aime, parce qu'on a plein de FF qu'on aime aussi hein, dans l'équipe. Parce que, ou peut-être de jeux japonais tout court, parce que même si je prends Yakuza ou Like a Dragon, qui sont des licences que j'aime beaucoup, des choses what the fuck, voire totalement inintéressantes en contenu annexe, bah j'en ai aussi, donc vraiment, peut-être que c'est juste courant.
En question numéro 3, toujours selon vous, quel jeu offre la pire fin que vous ayez connue? Jalma.
Bon, alors, French l'avait fait, moi je l'ai fait, c'est un jeu qui date de 2011, ça s'appelle Rage.
Ouais.
Pour rappeler Rage, ça se passe dans un monde apocalyptique qui en plus c'est
un jeu aussi,
qui...
hein, je l'ai encore même en physique.
Ouais, c'était un, je sais pas si tu l'as fait, Joss, pour le coup, c'était un jeu qui était assez incroyable.
Je l'avais pas terminé à l'époque, mais, je me souviens énormément
et ben en fait c'est un jeu assez incroyable où t'es dans un monde apocalyptique, c'est un jeu qui est très nerveux, très dynamique dans les combats, etc. Enfin, franchement, tu décates tout le monde d'aventure avec un scénario qui est plutôt sympa en fait, hein, parce que pour le coup, tu dois réussir à réanimer des on va dire. Tu sais, on pense qu'il y a de la cryogénisation, etc. Donc, ton objectif notamment principal... Je suis désolé, je spoil un peu le jeu, je préfère vous prévenir. Donc, ton objectif principal, c'est de réanimer ce qu'il y a dans cette cryogénisation, sachant qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans, en fait. Hein. C'est vraiment... Il y a une sorte de mystère, etc. Et ben, j'ai revisionné il y a peu de temps la fin du jeu. Tu arrives à la fin du jeu, la boîte s'ouvre, et là, boum, générique de fin. Et ton jeu s'arrête comme ça. Donc, tout ce que tu as fait tout le long, tu ne sais pas en fait ce qu'il y a dans ces fameuses boîtes. Voilà.
Donc,
voilà comment s'arrête le jeu.
Gros spoil final, merci Jalma.
Bah, je préfère préciser, oh, le jeu date de 2011. Hein,
il y a prescription.
Ouais,
là,
il y a prescription, bien sûr. Moi, je pensais à Resident Evil Village. Honnêtement, c'est pas facile hein, comme question et j'ai beaucoup réfléchi. Mais Resident Evil Village, récemment, ça fait partie des jeux qui m'ont un peu déçu sur une fin que j'avais trouvée à rallonge et un peu alambiquée. C'est vraiment un jeu où j'avais l'impression que ça avait tout donné au début. Et en fait, le dernier arc était plus que moyen. On a l'impression que ça s'est un peu relâché sur la fin. Et du coup, on en a une fin un peu ennuyante, un peu à la rallonge, avec des dernières arènes qui sont un peu ennuyantes. Et surtout, une fin que j'avais trouvée assez bordélique. Moi, si je devrais en citer un... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont déçu en soi, mais Village fait partie de ces fins qui ne m'ont pas marqué. De toute façon, tout l'arc Ethan Winter de Village n'est pas exceptionnel non plus au niveau de sa narration. French, toi, ta pire
fin. Je suis assez d'accord avec toi, Joss, là-dessus, et je vais même rejoindre Jalma aussi avec son bel exemple de Rage. Moi, un truc que je déteste, c'est quand je me suis investi dans un jeu qui dure 10 heures, ou 20 heures, ou 100 heures, je déteste un truc qui se finit en 2 minutes, par exemple. Parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, qu'on est en train de m'insulter, de me cracher au visage, et un truc qui me gêne particulièrement. Alors, du coup, j'ai deux exemples à partager, un plus vieux et un récent. J'en ai un récent, c'est Banisher, je suis désolé Joss, pour l'avoir fini et pour avoir visionné les autres fins en ligne, puisqu'on ne peut pas y accéder dans un seul run. Ça se passe totalement là, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est très riche au niveau d'un couple de banisseurs, d'esprits, de fantômes dans un monde et tout et compagnie. On a des réflexions sur l'amour, la mort... Comment retrouver l'être aimé, comment éventuellement ranimer l'être aimé dans le monde des vivants, enfin des choses qui sont assez intenses. Et on a dans chaque fin quelque chose qui se boucle en 2 minutes, 2 minutes 30. Enfin, c'est. Moi, je trouve ça assez irrespectueux. J'ai un autre jeu quand même qui me vient à l'esprit, qui est un excellent jeu au passage, que je vous invite vraiment à jouer si vous êtes curieux dans le genre fantastique, psychologique, jeu d'aventure un peu à l'ancienne, en point and click. C'est un jeu qui s'appelle Sanitarium, qui est exceptionnel et qui lui aussi se place malheureusement dans une fin qui répond à peu près à la problématique du jeu mais se termine de mémoire en moins de 2 minutes. C'est un petit peu tout ce que je déteste quand j'ai passé 15-20 heures
c'est
dans
balayé
un jeu.
Bah, quoi. Ouais.
Ouais, mais Fred Chargeux, je pensais que tu me le citerais parce que je sais que tu l'as fait, c'est Borderlands. Parce que la fin du premier Borderlands est catastrophique. Ouais. Elle se termine en minutes aussi. Avec un boss final, en fait, c'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire que tout le long du jeu, tu vas choper des armes, etc. Tu vas te stuffer avec un boss final qui se fait en 2 minutes. Oui, hyper facile, tu ne comprends pas. Je pensais que tu me le citerais aussi.
Parce que lui, je lui accorde un petit peu moins d'intérêt sur la partie histoire. C'est ça la différence par rapport à ce que j'ai cité. Mais je suis d'accord avec toi, ceci.
Ouais, mais ça se finit quand même en... C'est très raccourci.
Je suis totalement d'accord avec toi, ceci.
Ah, t'as vu, on s'entend sur le coffre 10, c'est incroyable. On est en lien, quoi.
C'est un peu la rubrique détente, quoi. Alors, question numéro 4. J'aimerais savoir, toujours selon vous, quel est le pire PNJ qui a pu vous accompagner dans une aventure ? Je sais plus qui a commencé tout à l'heure, mais on va donner la parole à Jalma.
Mais les gars, je pense que vous allez me rejoindre, c'est Ashley dans Hero 4 Remake,
quoi. Parce que... Et encore, elle est encore moins pire dans le remake que dans l'épisode
original. Non, parce que moi, j'en avais déjà parlé quand on avait fait le jeu, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où justement tu te prends des coups de catapulte. Moi, elle avait le don de se foutre dessus, quand même. Donc déjà, quand t'es en mode difficile, ça te mettait un game over, tu devais recommencer tout le niveau. Mais au-delà de ça, dans Hero 4 Remake, je vous rappelle que c'est quand même la meuf. Tu sais qu'il y a des zombies et tout ce que vous voulez autour de vous.
Oui.
Elle se fait tout le temps capturer, quoi. Enfin, à un moment donné, tu te dis, mais attends, t'es un peu con, quoi. À un moment donné, je sais pas, tu sais qu'il y a des zombies.
Bah, après, c'est un peu le but, hein. C'est la fille du président.
Elle se fait capturer quatre fois d'affilée en trois niveaux, quand même, les gars.
Ah non, mais elle est horrible. Je pense que tous ceux qui ont joué au Resident Evil l'ont détesté. Et encore, ils l'ont rendu un peu moins détestable dans le remake.
Ouais, alors moi, j'avais pas fait le jeu original, mais là, déjà, c'était détestable, quoi. Tu dis, elle est con comme un balai, je suis désolé de le dire, quoi. Ouais. C'est vraiment
moi, je te rejoins, c'est elle. Elle est insupportable à crier, Léon.
Léon. Et puis, en fait, du coup, t'as le timer qui se met en route et tu dis, tu la sauves. Et deux niveaux après, elle se fait recapturer, quoi. Puis, au lieu de courir et de s'échapper, elle fait quoi? Elle se baisse avec les mains sur la tête. Non, mais qui fait ça de nos jours, sans déconner, quoi.
Ouais, moi j'avais noté Ashley comme toi. Bah, je pense que bon, ceux qui ont fait les RE auraient noté Ashley. J'avais noté aussi récemment, même s'il n'est pas insupportable dans sa manière d'être, c'est Vasco dans Starfield. Parce qu'en fait, juste il te bouffe tellement de place que quand tu dois te déplacer, il te bloque le passage. Enfin, c'était hyper relou. Et ça, il y en a plusieurs qu'on pourrait citer, des PNJ comme ça qui te bloquent la route et qui, du coup, en deviennent des personnages détestables dans ton jeu parce qu'en fait, ils bloquent dans ton gameplay. Mais récemment, j'ai pensé à Vasco qui était ce genre de gros robot dans Starfield qui te prenait absolument toute
la
place.
Même dans Starfield, les PNJ qui se mettent dans ta ligne de mire, je l'avais dit, j'avais pas fait le podcast dessus, mais je le redis du coup, qui se mettent dans ta ligne de mire quand t'es dans une phase de shoot, quoi. C'est impressionnant de bêtises.
Alors, pour une fois, je vais vous faire plaisir. On est bien dans le coffre maudit. Hein. Autant Resident Evil, je vais pas y revenir, mais je vous rejoins plutôt sur ce que vous avez dit. Starfield, Joss, effectivement, je vais te rejoindre aussi parce que. On a aussi une autre particularité. Ah, il y a Vasco, il y a les PNJ que Jalma a cité. Il y en a un paquet, y compris les personnages qu'on aime dans Starfield. Mais il y a aussi, si on prend un certain trait de caractère du héros, on peut aussi avoir son fan dévoué. Alors le fan dévoué, comme le nom l'a dit.
Oui, c'est une option, t'es pas obligé de le prendre.
Oui, c'est facultatif, mais moi je l'ai fait. Le fan dévoué, on en a pour son argent. Le fan dévoué, il est toujours là à vous. À vous sortir des choses, à vous cirer un peu les pompes, à vous sortir tout ce que vous rêviez éventuellement si vous avez besoin d'avoir les chevilles
qui rentrent. Moi, je pense que c'est un troll de la part des développeurs.
Je pense que c'est voulu. Et à tel point que pour avoir choisi cette option, à un moment donné, je l'ai même mis un petit peu en retrait et je l'ai vraiment dégagé le plus possible tellement je n'en pouvais plus. Alors pourquoi j'ai testé ça? Ça, ne me posez pas la question.
Ouais, c'est marrant, toutes ces options qu'ils ont fait, je trouve, dans Starfield.
Je pense que c'est un truc que j'aurais envie d'expérimenter, il ne faut pas chercher.
Ça, j'aimerais tellement que tu sois fan de moi.
Je sais, Jalma, je sais. Mais à contrario, on a aussi des jeux qui font les choses très très bien. On a cité Ashley de Resident Evil 4. Petit aparté très rapide, mais Joel et Ellie dans Last of Us, ça en revanche, ça marche très bien, pour tout un tas de raisons. Donc, ça existe aussi, mais enfin bon.
Comme ça marche très bien dans Banisher avec Anti-ARN.
Anti-ARN, ouais, ça marche très bien aussi. Mais comme Joss voulait aussi qu'on sorte les pires, je ne pouvais pas passer sous silence le cas Atreus dans God of War et Ragnarok.
Il est en pleine crise d'adolescence.
Ah, il est insupportable.
C'est pas tant son côté en crise d'adolescence qui m'a gêné, mais c'est peut-être un coup de gueule plus général, et j'aurais pu citer d'autres jeux, sur le fait que Atreus en permanence commente les choses, c'est-à-dire qu'en permanence il va te dire ah mais je vais faire tel truc avec telle plateforme, je vais faire tel truc avec tel dispositif.
Mais Horizon le fait aussi.
Ça hein. C'est Sony tout simplement.
Ouais, mais est-ce que tu vois un sidekick dans Horizon justement?
Non, mais il dit exactement ce qu'il faut faire. Il y a plus. Mais là c'est un autre.
Je suis d'accord.
Mais là c'est un autre débat. C'est qu'on t'empêche de réfléchir aux énigmes.
Là,
en fait,
le
sauf que là,
Sauf que là, on l'a mis dans la bouche d'Atreus et c'est ça qui, quelque part, me tue quelque chose. Alors que le personnage est intéressant du point de vue de l'histoire et de la narration qu'on exploite dans le jeu.
Il est insupportable, Atreus.
Ah non, mais il est insupportable dans le premier God of War. Arrête de voir.
Moi, je le trouve malgré tout intéressant, mais j'aime pas ce côté-là. Et je note, et c'est pour ça que je citais Last of Us, pour terminer, c'est que je note quand même que Ellie, c'était quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus maîtrisé.
Mais j'ai dit que je ne voulais pas de points positifs dans ce coffre maudit. Je veux que du sang.
J'ai triché.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il écoute jamais les consignes.
J'ai triché. J'ai fait un pas de côté, Joss.
Question de numéro 5 et dernière question. Hein, du coup, pour finir, selon vous, quelle fut votre pire déception vidéoludique? French.
C'est hyper compliqué parce que je sais pas vous, mais dans la vie en général, les mauvaises expériences, on a plutôt tendance à les évacuer.
Ouais, j'ai essayé de me creuser. J'ai pas de pire, genre vraiment la grosse déception, quoi.
Non, et
j'en ai pas tellement.
Du coup, je vais être obligé de tricher un petit peu parce que pour le coup, bah, je n'en avais pas spécialement une giga grosse déception à partager. Je suis sûr qu'en cherchant plus, je le trouverai, mais. Bon, il y a Final Fantasy XVI, qui moi l'année dernière est un jeu que j'attendais beaucoup, parce que j'aime bien la saga, et par rapport à ce que j'attendais, on parlait quand même d'une sorte de Game of Thrones à la japonaise, on parlait quand même d'un grand récit médiéval, entre guillemets réaliste, avec des grandes intrigues politiques, une dramaturgie de taré, j'y ai vu quand même une sorte de shonen très limité, quoi, hein, donc bon, ça m'a un peu saoulé. Bon, il y en a quelques autres que j'ai notées par rapport à des émissions dernières qu'on a déjà faites. Puisque je pense que je vais être le seul à le citer, parce que je crois qu'un certain Jalma va se retaper dessus, sinon je vais me permettre de citer Planet of Lana. Planet of Lana.
J'étais d'accord avec toi, moi je ne l'avais pas trop apprécié.
Planet of Lana, pourquoi? Bah parce qu'en fait, on est dans un jeu de 2D plateforme qui est totalement dans mon type de jeu et dans ma cam. Mais je l'ai trouvé très gentil et très limité dans ce qu'il a à raconter et dans ce qu'il
développe. C'est bridé dans le scénario, je te rejoins là-dessus.
Et ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, forcément, c'est une déception. Déception.
Malgré une DA sublime et une bande-son musicale qui était magnifique.
Musique sublimissime, personnage beau, le graphisme façon pastel, avec ses remplissages de couleurs très particuliers. Oui, c'est très joli. Mais le problème d'une déception, c'est un jeu où, à la base, on a beaucoup investi dedans et ensuite, on est déçu. Parce que le jeu, t'as rien investi, bah c'est pas
vois,
une déception.
Là, c'est des jeux, on n'avait pas spécialement des fortes attentes dessus, donc.
Bah si, oui, Planet of Lana, on l'attendait. Hein.
Moi, je l'attendais pas particulièrement, donc c'est pas.
Bah peut-être toi, mais avec French, je peux dire qu'on était main dans la main
nous,
tous les jours. On allait chez Micromania, on leur disait mais ça sort quand.
Ah nous, on était fous amoureux, on se baladait main dans la main. C'était l'ancien.
Moi, je pense que d'ailleurs, French, je vais dire, on va arrêter de dire les jeux qu'on attend parce qu'à chaque fois on est déçu. Alors je vais quand même le dire, moi j'attends à fond Pliggy Squire pour le coup, je fais un aparté. Bah j'espère qu'on va pas être déçu parce que putain, Planet of Lana, on attendait pareil et à chaque fois qu'on attend un jeu, on est déçu, nous, tu vois.
Quand on
attend le même jeu, souvent ça pense sur un truc pas bien. Je pense, tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend pas. Dès qu'on attend un truc ensemble, derrière, bam, on est déçu, tu vois.
Ah si, moi, il y a une déception. J'en ai une, mais je l'ai pas fait.
Mais comment tu peux être déçu si t'as pas fait le jeu,
parce
quoi
que, parce FIFA que tu 2024, vas comprendre, quoi, tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Parce qu'il y a des jeux que j'ai pas aimé, etc., mais je les attendais pas spécialement de ouf. Par exemple, The Shant. Bon, un peu déçu, il était pas dingue, mais c'était pas un jeu que j'attendais.
Mais attends,
de fou.
Comment tu peux attendre un jeu que t'as pas fait, que tu dis que t'es déçu?
Eh ben si, tu vas comprendre. Parce que quand ils avaient teasé au tout début, ça fait très longtemps que j'attends qu'on ait des super retours des jeux Le Seigneur des Anneaux. Et quand ils avaient parlé de Gollum, eh ben j'étais hype.
Oui.
Quand ils avaient parlé de Gollum, j'étais hype. Ouais, mais du coup, c'est une déception.
Mais Gollum, moi aussi, c'était pareil, je l'ai jamais fait.
J'étais hype, mais du coup, quand j'ai vu le développement et ce qui s'est passé par la suite, j'ai été des hype. Donc c'est un peu une déception en soi parce que j'étais genre trop contente de refaire un Seigneur des Anneaux.
J'avais une question. Est-ce que quand t'as eu le jeu, t'as fait « Ils me l'ont volé ».
Sale petit hobbit joufflu.
Bon, et là on est en train de partir en couille, il va falloir conclure quoi. Est-ce que je peux donner ma pire déception?
Bah allez, c'est bon, on arrête.
Là on part en couille, donc je vais quand même donner ma pire déception. Moi c'est Deathloop pour le coup, qui était développé par Arkham Studio, parce que j'avais adoré la licence Dishonored, où justement il y avait un très 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 bon scénario. Et Deathloop justement, moi ils m'ont perdu. C'est que autant le gameplay était assez nerveux, assez sympa, mais alors le scénario j'ai pas du tout accroché et je les attendais autre part là-dessus. Et bon, maintenant j'espère qu'ils vont raccrocher les wagons avec Blade qui arrive prochainement. Alors, on n'a pas encore de date, je crois, de mémoire. 2024, je ne sais plus s'il y avait une date, mais il faudrait vérifier. Ça avait été annoncé au Games Award, bon bref. Mais ouais, grosse déception scénaristique pour le coup.
Ouais. Ok, bah écoutez, merci pour ce partage de vos pires expériences en termes de jeux vidéo. C'est toujours sympa de le voir un peu dans ce sens-là. Bon, vous avez l'habitude, je vais vous faire le rappel de fin de podcast pour vous qui nous écoutez.
Je pense qu'avec notre imitation de Gollum, on a perdu 50 auditeurs, à mon avis, définitivement.
Non, tu rigoles.
Un jour, on va faire un concours de la meilleure imitation de Gollum.
On a beaucoup de choses à faire entre Zelda et les imitations de Gollum.
Non, mais vous le savez, vous qui nous écoutez, merci de nous soutenir. Merci toujours, si vous avez apprécié ce podcast, de le liker. Merci de le partager autour de vous. Merci de commenter un peu votre point de vue sur nos propos, sur peut-être ce que vous aimeriez entendre prochainement en émission. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité, donc c'est très important pour nous. Donc merci de nous donner de la force à vous tous. Vous êtes, je vous le redis à chaque fois, mais toujours de plus en plus nombreux. Donc,
mais tu
merci.
Sais quoi, on pourrait faire ça sous forme de pub la prochaine fois,
ouais.
Tu vois. Vous aimez la Guerre des Gamers.
Mettez un pouce.
Vous aimez vraiment. Mettez un pouce et vous gagnerez 5 euros de bon d'achat, tu vois.
Avec la voix de Gollum, du coup.
Avec la voix de Gollum derrière. Ouais, on tient un truc. Hein.
Financer nos bières. Là, vous ne voyez pas, mais à l'écran, j'ai une très belle bière sur une des caméras.
Allez, c'est bon, il est temps de censurer tout ça. Merci à tous pour cet épisode. On se retrouve pour un prochain, très très prochainement, sur, cette fois-ci, ce sera un jeu, je tairai encore le nom, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de débats. Ah. Allez, bonne semaine et jouez bien.
À bientôt, jouez bien.
Jouez bien, bisous, ciao ciao.